plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large en direct du festival Entrevue à Belfort avec Catherine Breillat, Lily Instinct, Saïd Ben Saïd, Benoît Jacquot et même Michel Simon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large depuis les studios de France Bleu Belfort Montbéliard. 32e édition d'Entrevue, le festival international du film créé en 1986 par Jeannine Bazin à Belfort. Une édition très riche et très profuse. Cette année encore, nous aurions pu consacrer ce plan large à la compétition qui rassemble les premiers, deuxième ou troisième films de jeunes cinéastes du monde entier. Nous aurions pu vous parler du génie burlesque de Charlie Chaplin au programme du BAC cette année et dont Entrevue projette l'intégralité des longs métrages. Nous aurions pu encore évoquer la fructueuse période dite pré-code à Hollywood, quand, avant l'instauration du code Hays en 1934, le cinéma était le lieu de toutes les licences et choquait les ligues de vertu, et où les Barbara Stanwyck, Mae West, Clara Bow et autres Miriam Hopkins se jouaient des hommes en composant des personnages complexes, de femmes sensuelles, libres, indépendantes et insolentes. Tout cela, nous aurons certainement l'occasion d'y revenir dans de prochaines émissions, car nous avons voulu profiter de la présence ici en terre franc-comtoise d'un producteur d'exception, responsable de certains de nos plus beaux ravissements récents, discret, rêveur et qui plus est extrêmement cinéphile. Saïd Ben Saïd est notre invité ce samedi dans Plan Large. À ses côtés, deux des plus grands cinéastes français qui travailleront peut-être avec lui un jour, allez savoir, mais qui sont surtout là à Belfort pour dévoiler une histoire secrète du cinéma, celle qui a eu lieu à la télévision française et dont Entrevue présente quelques fleurons. Catherine Breillat et Benoît Jacquot nous expliqueront comment on peut faire du grand cinéma sur un tout petit écran. En fin d'émission, Michel Simon nous évoquera, lui, quelques pépites récemment mises à disposition du public par l'inlassable chercheur d'or qu'est Lobster Film, dont deux documentaires consacrés à un certain vagabond au programme donc du baccalauréat.
J'ai notre soc fore, j'ai notre site à vore, j'ai la toula tila toi. La spinage en la bouchon, cigarette pote bello, si raki spaghetto, j'ai la toula tila toi.
On cherche après Titine et on trouve Lily. Bonjour Lily Instinct.
Bonjour.
Vous êtes la déléguée générale du festival Entrevue à Belfort depuis 2013. Déjà, comment se porte le festival Entrevue en cette pluvieuse journée d'ouverture? Excellent, la pluie pour les festivals de cinéma.
Le festival se porte bien. Voilà, 32e édition. Il commence à avoir un âge respectable et pourtant toujours tourné vers la jeunesse avec, donc, comme vous le disiez, tout à l'heure, la compétition internationale des jeunes cinéastes, premier, deuxième et troisième film.
Alors, on va y venir à la compétition, mais là, on vient d'entendre donc un extrait des Temps modernes. Charlie Chaplin, jamais à court de ressources quand il s'agit d'inventer les paroles d'une chanson dont on a oublié le texte. Vous projetez cette année donc l'intégrale des longs métrages de Charlie Chaplin, quelques courts métrages aussi. Heureusement, on pourrait penser que rien n'est plus connu que l'œuvre de Chaplin, mais est-ce que c'est la responsabilité pédagogique, je dirais presque, d'un festival comme Entrevue, de faire découvrir ce corpus à une jeune génération et pas seulement celle qui passe le bac cette année, sans parler du plaisir évidemment qu'auront tous les spectateurs à revoir ces films sur grand écran. Il est important de remettre à l'ouvrage comme ça ce qu'on pourrait croire extrêmement connu.
Alors oui, je pense que oui. Chaque année, nous, on travaille, comme vous l'avez dit, à partir du film programmé au baccalauréat. Et cette année, c'est Les Lumières de la ville de Charlie Chaplin. Donc à partir de cette figure imposée de programmation chaque année, on invente une proposition différente. Et c'est vrai que moi, j'ai tout de suite eu envie, non pas de broder sur des questions thématiques. On aurait pu faire un travail autour de la question du parlant, par exemple, et du muet, puisque c'est un film sans parole que Charlie Chaplin choisit de tourner à l'époque où le parlant existe déjà. Je dois vous dire quand même que la programmation sur le pré-code est un des fils tirés à partir de Charlie Chaplin, puisque Les Lumières de la ville datent de 1931 et je me suis demandé ce que faisaient les autres cinéastes en comédie en 1931. J'ai commencé à regarder tout ce qui se faisait en 1931 et donc je suis tombée sur cette question du pré-code. Mais pour Charlie Chaplin, c'est vrai que c'est à la fois le cinéaste le plus connu du monde, presque. En tout cas, il l'a été au moment où il a commencé à travailler, donc dès la fin des années 10, après avoir créé le personnage de Charlot, ce personnage complètement universel, il a vraiment été à la fois le cinéaste et le personnage le plus connu du monde entier. Ce petit tramp, comme il dit, ce petit clochard, ce petit vagabond qui ne parlait pas. Et donc c'est pour ça aussi que Chaplin a mis si longtemps à décider de passer à la parole, parce qu'il était bien embêté de devoir lui donner à la fois une voix et une langue aussi. Alors que des spectateurs indiens ou suédois ou japonais pouvaient le voir sans question de langage. Et ben, paradoxalement, ce cinéaste très très connu n'a pas une filmographie si connue que ça, parce que bien sûr tout le monde connaît Les Temps modernes et Le Dictateur et peut-être Les Lumières de la ville, mais il reste beaucoup de films de Charlie Chaplin qui sont pas tant vu que ça. Je pense notamment au dernier film, quand il abandonne le personnage de Charlot, après Le Dictateur, il abandonne la moustache, le costume, les cheveux noirs, et donc avec Monsieur Verdoux, qui est un film qui se passe en France.
J'adore.
Qui est un film
formidable, Monsieur
absolument
Verdoux.
Voilà,
l'affaire
magnifique.
L'affaire Landru, revue par Charlie Chaplin.
Exactement, et puis aussi l'espèce de désespoir. C'est un film qui se passe après la Première Guerre mondiale, mais c'est un film qui est réalisé après la Seconde, à un moment de désespoir métaphysique, je dirais, pour Chaplin, voilà ce dont est capable l'homme. Et donc, même s'il situe ce film dans une crise économique d'entre-deux guerres, c'est aussi un film qui est profondément marqué par la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, tout ce qui se passe aux États-Unis, le macartisme et tout ça, toutes les très très violentes campagnes politiques dont il a été la victime aux États-Unis. Donc Monsieur Verdoux, c'est un film, je pense qu'il reste encore beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu. Et après, moi je crois peut-être mon film préféré de Charlie Chaplin, le suivant qui est Un roi à New York, dont Roberto Rossellini disait c'est le film d'un homme libre, qui est un film absolument extraordinaire où voilà, c'est un roi européen exilé qui arrive aux États-Unis. C'est aussi un film très 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 moderne que j'ai d'ailleurs souvent montré aux lycéens quand j'ai eu la chance d'aller dans des lycées montrer des films. Il arrive aux États-Unis, d'abord il arrive, Léa Clément lui dit c'est le pays de la liberté, bienvenue, et puis en même temps on lui prend ses empreintes digitales, on lui met les mains dans l'encre, et puis ça commence. Donc c'est un film fin des années 50 qui a déjà des perspectives politiques criantes de vérité pour aujourd'hui, et aussi sur la question de la publicité, de la télévision et du rapport complètement commercialisé aux choses. Donc ce roi a été ruiné par son premier ministre, il a plus d'argent et pour gagner sa vie, on lui propose de faire des publicités. un petit peu à son insu, et donc il se retrouve à parler par exemple à une jolie jeune femme dans un dîner de laquelle il est en train de tomber amoureux, et puis tout d'un coup elle se retourne vers lui, enfin elle se détourne de lui plutôt, elle fait un grand sourire, elle s'adresse il ne sait pas à qui en disant vous connaissez le dentifrice, il est vraiment très très efficace, donc elle fait de la publicité à son insu, enfin, tout est publicitaire dans cette société dans laquelle ce roi Shadow, qui s'appelle donc le roi ombre, arrive. Et puis, à un moment, on lui dit, écoutez, roi Shadow, vous êtes un petit peu décrépit, donc ce serait vraiment bien que vous fassiez, que vous vous arrangez un petit peu la figure et que vous fassiez de la chirurgie esthétique. Et donc voilà, fin des années 50, il y a aussi cette question-là, il passe sur le billard, il se fait refaire tout le visage, je raconte pas tout, mais c'est hilarant et très, très visionnaire.
Et bien voilà, modernité de Charlie Chaplin, modernité des personnages aussi de femmes, je le disais tout à l'heure, qu'on verra dans ces films pré-code absolument extraordinaires, parce qu'on les voit pas souvent. En plus, les films de Lubitsch, Cukor, Sternberg et autres, on va pas avoir trop le temps de revenir dessus, mais promis, on fera un jour une émission sur le pré-code. Et puis alors, audace de programmation, vous consacrez une section entière dans la Fabrica, une figure qu'on met rarement en avant, qui plus est dans un festival cinéphile, une figure de l'ombre, souvent mal vue, surtout en ce moment, peut-être plus encore, le producteur. Pourquoi avez-vous jeté votre dévolu sur Saïd Ben Saïd en lui proposant de rêver son festival cette année, Lily Astin?
Alors, la Fabrica, c'est une section qui existe au festival donc, depuis que j'ai créé en arrivant, et qui avait pour but au début de sortir un petit peu du discours purement autorial avec les cinéastes et d'inviter des cinéastes avec leurs collaborateurs. Donc ça s'appelle la Fabrica pour explorer, enfin réfléchir ensemble le cinéma comme art véritablement collectif, et la manière dont le geste de chaque technicien, le geste du mixeur, le geste du décorateur, du chef opérateur, bien sûr, enfin tous les gens qui travaillent à fabriquer un film, comment j'emploie vraiment le geste dans son sens propre, c'est-à-dire la manière dont il va matérialiser son travail, fait partie du projet esthétique du cinéaste. Donc on a invité des cinéastes avec différents collaborateurs pour parler de ça. L'année dernière, on a un peu élargi la réflexion à la question du comédien avec Melville Poupeau. Et cette année, c'est vrai que j'ai pensé à Saïd Ben Saïd tout simplement parce que sa cinéphilie et ce que j'ai pu en savoir, enfin avant de se rencontrer, d'en parler plus en détail ensemble, et je trouvais très très proche du travail qu'on fait entre vues, c'est-à-dire à la fois très éclectique et en même temps sans concession. Et moi, j'ai été productrice avant d'être programmatrice, donc je sais que c'est un métier qui vient quand même très souvent de l'amour du cinéma. Et je sais que ce qui est le plus fort aussi dans ce métier-là, c'est avant tout de rêver un film avec quelqu'un. Donc ça m'intéressait d'explorer ce volet qui est en effet pas... Oui, qui reste un peu dans l'ombre.
Alors, qui est Saïd Ben Saïd? La plupart de nos auditeurs ne le savent pas. Petit portrait radiophonique, Saïd Ben Saïd en producteur, signé de la réalisatrice de Plan Large, Somanina.
Mais si un jour on est infidèle, tu veux qu'on se le dise ou pas?
Oh là là, t'es compliqué, toi.
Bah non, moi je préfère savoir. Toi, tu voudrais pas savoir?
J'ai quelque chose à vous dire. Je cherche une façon simple et naturelle de vous le dire, mais j'y arrive pas vraiment.
C'est pas ça, ça me rend triste.
Quoi, qu'est-ce qui te rend triste?
Réussir, ça me rend triste.
Mais quoi, mais qu'est-ce qu'il y a là-haut?
Alors, voilà, j'ai été agressée chez moi. Je crois que j'ai été violée.
Je le sais.
I will never forget how you humiliated me, and you will pay for it. Vengeance is a dish best served cold.
Don't come into my room.
Don't come into my room.
When I'm sleeping.
Don't come into my room when I'm sleeping.
I won't let you anymore.
I won't let you anymore.
You motherfucker.
Motherfucker! You hurt me.
Tout Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encantos que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeitos também que Deus dá.
Alors vous aurez peut-être reconnu des extraits de La Jalousie, de Philippe Garrel, de Elle, de Paul Verhoeven, de Tout de suite maintenant, de Pascal Bonitzer, Passion, Brian De Palma, Maps to the Star, de David Cronenberg, et puis Gilberto Gil chante dans Aquarius, de Kleber Filho Mendonça, petit montage de quelques-unes de vos productions récentes, Saïd Ben Saïd, et qui seront projetées cette année à Belfort. On aurait pu rajouter aussi des films de Roman Polanski, de Valeria Bruno Tedeschi, Pascal Thomas ou André Téchiné, mais aussi avant la création en 2010 de votre propre société SBS, à l'époque où vous officiez chez UGC, ceux de Barbette Schroeder, d'Alain Corneau, de Zanussi, de Francis Weber, de Philippe Haïm et James Hutt aussi. Mais il est vrai que la cinéphilie a commencé à vous repérer et à vous exprimer toute sa reconnaissance quand vous avez permis à des cinéastes aussi importants que Paul Verhoeven ou Brian De Palma et même récemment Walter Hill de sortir d'une sorte de pré-retraite dans laquelle le système usuel, majoritaire de production avait voulu les mettre. Être un producteur pour vous, Saïd Ben Saïd, c'est avant tout permettre au film que vous avez envie, vous, de voir, de se réaliser.
Oui, je crois que c'est comme ça que j'envisage mon métier. C'est une façon pour moi de continuer un petit peu ma cinéphilie, de continuer à voir des films. Je ne sais pas vraiment comment je définirais mon métier de producteur. Quand j'ai commencé à essayer de produire des films il y a une vingtaine d'années, je me rappelle qu'il y avait un producteur installé dans le métier qui me disait « Alors, est-ce que tu te prends toujours pour un producteur ?» Enfin, une manière de me taquiner. Je crois qu'il était un petit peu agacé par... par ma cinéphilie. Et j'étais évidemment très vexé sur le moment, mais en y réfléchissant...
C'est un gros mot d'être cinéphile dans la production.
Ce n'est pas un gros mot. Non, pas du tout. Mais disons que ce n'est pas non plus très, très courant. Et je me sentais très vexé, mais quand j'y repense aujourd'hui, je me dis qu'il avait raison. C'est une assez bonne définition, réflexion faite du métier que je fais, se prendre pour un producteur. J'avoue que c'est ce que je fais à chaque film, mais je ne sais pas finalement si j'y arrive vraiment.
C'est quoi un bon producteur, Catherine Breillat ? Vous avez beaucoup travaillé avec Jean-François Lepetit à Flash Film. Qu'est-ce que c'est un bon producteur pour vous ?
Pour moi, c'est quelqu'un qui aime mon cinéma, déjà c'est rare. Non, mais un bon producteur, je ne sais pas, parce qu'il y a plusieurs sortes de bons producteurs. Moi, je suis assez éclectique. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui m'aiment, donc je ne devrais aimer que les gens qui m'aiment. Je ne suis pas absolument centrée que sur mon genre de cinéma. Donc, bon, évidemment qu'un producteur, il y a une part de lobbyisme, il y a une part de vouloir faire du cinéma presque industriel, contre lequel je ne suis pas. Et puis, il y a aussi le producteur très, très artisanal qui tire des bouts de ficelle de partout pour arriver à monter un film. Et tout ça fait des producteurs, parfois, ce ne sont pas les plus gros films qui sont les plus grands, ni ceux qui gagnent finalement le plus d'argent. Bon, un bon producteur, c'est celui qui arrive à faire les films qu'il veut faire, finalement.
Mais qui arrive aussi à faire, à susciter un désir parfois chez un réalisateur, parce qu'on est dans l'idée généralement en France qu'un réalisateur va arriver avec un projet, un scénario tout ficelé, puis il va chercher un producteur qui va bien vouloir le produire. Il vous arrive certainement d'être dans ces conditions-là, mais vous êtes aussi quelqu'un qui va aller voir Paul Verhoeven, par exemple, en disant « Tenez, j'ai une idée, un scénario, un livre de Philippe Jean que vous devriez lire, peut-être ça va vous intéresser », ou d'aller voir Brian De Palma en lui disant « Voilà, j'ai les droits d'un film d'Alain Corneau », peut-être que ça peut vous intéresser de faire le remake. On est aussi dans la création du désir comme producteur. Saïd Ben Saïd.
Vous citez deux cinéastes que j'admire beaucoup, donc avec qui j'avais envie de travailler l'un et l'autre. En ce qui concerne Paul Verhoeven, c'est un cinéaste dont je savais qu'il avait des projets qui étaient en cours de financement, mais qui n'étaient pas du tout faciles à monter. J'avais lu ce roman que Philippe Djian m'avait envoyé, J'ai pensé à Paul Verhoeven d'abord parce que j'avais très envie de travailler avec lui, et puis le roman me semblait vraiment très très proche de sa sensibilité, et c'est pour ça que je le lui ai envoyé. Concernant Brian De Palma, oui, c'est un peu la même démarche. C'est un peu la même démarche. J'avais produit ce film, quel lapsus, de Corneau que j'aime beaucoup, dont j'étais très fier, et je me disais que ça pouvait donner envie, Crime d'amour, à Brian De Palma d'en faire un remake, et quand je lui ai envoyé le DVD, il m'a rappelé un petit peu après, et il m'a dit j'ai vraiment très envie d'en faire un remake, je pense même que je pourrais faire mieux.
Ah, c'est bien Brian De Palma dont on parle, on l'aura reconnu. Il y a eu une interview assez belle de vous dans les Cahiers du cinéma, une revue qui a beaucoup compté pour vous, qu'ils avaient appelée Side by Side. Alors au-delà du jeu de mots avec votre nom, Saïd Ben Saïd, est-ce que ça définit bien vos relations avec les cinéastes avec lesquels vous travaillez? Est-ce que vous êtes comme ça, côte à côte avec eux? Quelle est la place? À quel moment il faut être présent? À quel moment il faut s'absenter quand on est un producteur, selon vous?
Je suis présent et absent en même temps. Absent pendant le tournage, tout en étant présent si on a besoin de moi en cas de problème. Mais en général, pendant le tournage, je laisse toujours les metteurs en scène travailler. Les plans de travail sont de plus en plus serrés, de plus en plus difficiles. Donc ça ne sert vraiment à rien d'arriver comme ça pendant que les gens travaillent, et quand les films sont bien préparés, les tournages se passent bien. Par contre, j'aime bien avoir un dialogue, alors oui, pendant l'étape du scénario, et puis aussi beaucoup pendant le montage, en fonction des rapports que j'arrive ou non à créer avec un cinéaste, ces dialogues sont plus ou moins féconds, mais en tout cas, j'aime bien parler pendant ces phases de la fabrication d'un film.
Alors j'imagine que quand vous parlez avec un cinéaste aussi cinéphile que Brian De Palma, les références cinéphiles communes doivent être assez pratiques. Alors second portrait de Saïd Ben Saïd, à nouveau réalisé par Somanina, Saïd Ben Saïd en cinéphile.
My guys are not stupid. They always put the big Jews on my schedule. You're mostly Jews here, right? But three out of four anyway.
Excuse me?
Yuki! Yuki!
C'est dangereux, un couteau comme ça à ton âge. Tu cours, tu tombes et tu te fais mal après. Tu me le donnes ? C'est pour qui toutes ces fleurs, pour tes parents ?
Les parents, j'en ai pas. Ils sont là-haut au cimetière. Ils sont tous en voiture depuis longtemps. Mais qu'est-ce que vous faites ici ?
Were you in the crash ?
Non. I found this baby. I gotta find your mother.
Okay. There's a woman right over there. She's looking for a baby.
Yeah,
Voilà, ce sont quelques-uns des 10 films que vous allez présenter cette année au festival Entrevue à Belfort. Donc pas des films que vous avez produits, Saïd Ben Saïd, des films que vous aimez. J'en donne la liste. La Petite Lise de Jean Grémillon, Turning Gay de Hong Sang-soo, Bulworth de Warren Beatty, Le Destin de Madame Yuki de Mizoguchi, Juste avant la nuit de Claude Chabrol, Le Lieu du Crime d'André Téchiné et Ta Seconde de Peter Weir. Et vous n'en montrez que 10, et pourtant vous auriez pu en montrer beaucoup plus, parce que quand Lily Instinct vous a demandé quels sont les films comme ça que vous pourriez programmé dans un festival rêvé, Saïd Ben Saïd, vous n'en avez pas donné 10, vous en avez donné 47. ces films sont des films qui sont importants pour vous en ce moment, ou sont des films qui vous ont toujours accompagné? Est-ce qu'il y a des films que vous aimez à des moments particuliers de votre vie, dont vous avez besoin à certains moments? Est-ce que c'est ça votre cinéphilie, Saïd Ben Saïd?
Il y aurait pu avoir plus de films dans cette liste, ou moins.
Mais avec 47, vous êtes réfréné, en fait.
Non, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je pensais en avoir mis 50, mais pour que ce soit un chiffre, pour que ce soit un chiffre rond. Non, c'est une liste totalement arbitraire, qui n'est pas figée, évidemment. Mais je pense que, si je devais la faire, refaire là maintenant, elle serait un tout petit peu différente, mais pas complètement différente.
Alors, c'est ce qui est très intéressant quand on regarde cette liste en détail.
C'est un exercice d'ailleurs.
Mais c'est un autoportrait, c'est une sorte d'autoportrait.
C'est assez régressif en fait de faire ce type de liste. Il m'arrive de temps en temps de rédiger comme ça des listes, de les publier sur Internet et puis de regretter. Il se trouve que Lily a dû voir ça passer et m'a dit pourquoi ne pas venir à Belfort, on pourrait en montrer quelques-uns et puis montrer des films que vous avez produits, et donc j'ai très chaleureusement accepté, mais voilà comment la liste est née.
On regarde souvent ce qu'on poste sur Internet, hein, méfiez-vous, Saïd Ben Saïd.
Je sais.
Mais si on regarde cette liste en détail, ce qui est très passionnant, bon, au-delà des répartitions, il y a beaucoup de films hollywoodiens, 11 français, 5 japonais, il y en a qui apparaissent deux fois, Mizoguchi ou Renoir, c'est qu'il y a des grands noms du cinéma, mais souvent pas pour leurs films les plus connus. Si on prend Renoir, par exemple, c'est pas la règle du jeu, c'est Le Caporal épinglé et La Femme sur la plage. Pour Hitchcock, vous allez prendre Family Plot, un film pas très aimé, d'ailleurs, en général, de Hitchcock. Pour John Ford, c'est L'Aigle vole au soleil. Je pense que la plupart des spectateurs n'ont jamais vu ce film sur grand écran. Votre cinéphilie, c'est comme ça, c'est d'aller prendre un peu le film méconnu, le film qui n'appartient qu'à vous, d'une certaine façon.
Quand on est cinéphile, on voit des milliers de films. On commence par voir les plus importants. Mais je pense que c'est pareil pour tous les autres arts. Hein. Quand vous lisez tout Balzac, vous commencez par lire Le Père Goriot et puis vous vous intéressez un jour aux employés ou aux paysans, qui sont deux très grands romans méconnus de Balzac. Eh bien, pour les cinéphiles, c'est un petit peu la même chose. On voit des milliers de films, on finit par se forger une représentation du monde grâce à ces films-là. Et puis il y a forcément une sorte de snobisme qui intervient à un moment donné, mais j'imagine au bon sens de ce mot, hein, au bon sens de ce mot, c'est-à-dire qu'on a à un moment donné le souci de la distinction.
Alors, est-ce que avec tous ces films que vous regardez, revoyez, vous repassez sans cesse, et puis avec votre métier très prenant, est-ce que vous avez déjà envisagé de produire pour la télévision? Est-ce que vous regardez la télévision, Saïd Ben Saïd?
Oh, je ne fais que ça, je regarde des séries tout le temps. Je vois beaucoup plus de séries que de films de cinéma. Et c'est une activité très très chronophage forcément, puisque les bonnes séries durent longtemps, et quand on a du retard, eh bien on passe souvent des nuits à regarder des séries américaines, oui. Puisque je ne regarde que des séries américaines.
Vous avez donc une cinéphilie tout à fait contemporaine, mais de toute façon la télévision c'est aussi du cinéma, ou en tout cas à un moment ça l'a été.
Allô, Catherine?
Bonjour, c'est Jeanne.
Je vous réveille? Ah bon? Dites donc, vous êtes toujours libre cet après-midi? Quelle heure? 17h. Bon, très bien. Et puis on sera filmé. Ah ben, je vous expliquerai. On se retrouvera à l'espace Cardin alors, hein? Bon, 17h. À tout à l'heure. Au revoir, Catherine.
Non, mesdames, Catherine, c'est fou ce que vous êtes exact. Je vous avais dit 5 heures. Vous êtes là à 5 heures.
Non, parce que j'ai failli arriver pas du tout à l'heure. Un éditeur des pays de Langara, un Syrien, je crois, qui est arrivé chez moi à 11 heures du matin, qui est resté absolument toute la journée jusqu'à 4 heures, parce qu'au moment où il allait partir, il s'est même questionné.
Normal.
Parce que maintenant, j'ai dit, j'ai rendez-vous, alors je me suis habillée à toute vitesse, je suis venue.
Merci vraiment Catherine Breillat, vous êtes toujours aussi ponctuelle comme vous le faisiez remarquer. Jeanne Moreau, c'était en 1972 dans Vive le cinéma, un épisode qui avait été réalisé par Jacques Rosier. Vous vous souvenez de ce grand moment de télévision ?
Je me souviens très bien, je me souviens quand j'ai pris au téléphone aussi que tout d'un coup Jeanne Moreau, moi qui arrivais de ma province Niort dans les Deux-Sèvres, où j'étais déjà haïe si vous voulez, j'adorais Jeanne Moreau et elle m'appelle.
Elle vous appelle et elle vous emmène dans une salle de cinéma et elle va vous parler de son amour pour le cinéma. C'est un épisode absolument extraordinaire. On la voit à la fin interviewer Orson Welles qui lui raconte tout son monde fantastique. On imagine qu'une bonne partie est tout à fait inventée et c'est la beauté de ce qu'il raconte. C'est une des raretés vraiment qu'on peut découvrir cette année à Belfort dans cette histoire secrète du cinéma à la télévision française qui est programmée, il faut le dire, par le critique Mathieu Macheret, un des programmateurs du festival Entrevue, quand il collabore d'abord pas à plan large, comme la semaine dernière d'ailleurs, il était venu nous parler de Chantal Akerman.
À quoi servait normalement cette émission de Jeanne Moreau ? Pierre Cardin voulait lancer des bornes de télévision sur les quais du métro avec des programmes. Et bon, ça s'est jamais fait, mais ça c'était le pilote.
Ah oui, bah ça aurait été pas mal de voir ça dans le métro. La série d'ailleurs avait été créée par Janine Bazin, hein, créatrice aussi du festival Entrevue à Belfort. Alors le générique que vous alignez, Lily Instinct, pour cette histoire secrète du cinéma est absolument incroyable. Enfin, on a aussi bien Claude Chabrol que Raoul Ruiz, Barbette Schroeder que Georges Franju, Jean-Luc Godard, Chantal Akerman, tiens, dont on parlait la semaine dernière. Un film censuré d'Agnès Varda, Nausicaa, qui avait été donc jamais diffusé à l'époque. La liste donne complètement le tournis. Comment est-ce que vous avez réalisé, Lily Instinct, qu'il y avait caché comme ça dans les trésors de l'INA des films extraordinaires de grands cinéastes et qu'on ne voyait plus puisqu'ils avaient été diffusés une fois à la télévision et puis après disparus dans les limbes des ondes hertziennes?
Ben écoutez, c'est un petit peu par hasard, en commençant à travailler sur à tirer les fils de certains cinéastes que j'aimais. Donc je pense notamment à Marie-Claude Treillot, que j'ai découvert. Donc par exemple, cette espèce d'émission dont on ne montre qu'une toute petite partie, qui s'appelait « Qu'est-ce que le changement ?» en 1982. Donc un an après l'élection de François Mitterrand, la télévision française demande à des cinéastes « Qu'est-ce que c'est pour vous le changement ?» en mai 82, un an après son élection, donc il demande à Treilloux, à Luc Moulet, à Jean-Luc Godard, à Philippe Grandrieu, plein de cinéastes. Et donc nous, on va montrer le film de Luc Moulet qui s'appelle Introduction, qui est très amusant, comme tous les films de
comme
Luc Moulet.
Comme toujours chez Luc Moulet. Et il y a la leçon de brasse aussi de Luc Moulet.
Ma première brasse. Voilà, on va montrer 4 films de lui. Mais disons, voilà, en commençant à découvrir certains des films de cinéastes que j'aimais, qui avaient été faits pour la télévision, et aussi cette espèce d'extraordinaire série qui s'appelle Télévision de chambre, donc qui a été faite à l'époque pour TF1. C'est des films qui passaient en prime time à l'époque, où ils ont demandé à 11 cinéastes de faire un film d'une heure en huis clos. Donc c'est des sortes de commandes avec des contraintes très fortes, où il y a des films absolument magnifiques. Donc un film de Chantal Akerman qui s'appelle L'homme à la valise. Il y a le film d'André Téchiné qu'on va montrer qui s'appelle La Matiouette, écrit par Jacques Nolot, avec Jacques Nolot, qui est vraiment une petite merveille. Il y a un film de Pierre Zucca. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de films très méconnus de cinéastes que j'aimais et qui étaient connus pour la télévision. Au-delà, on va dire, des grands classiques, je pense à Jean Renoir, Le Testament du docteur Cordelier, ou Le Petit Théâtre de Jean Renoir, qu'on connaît un peu mieux, ou même Jean-Luc Godard, dont c'est peut-être le cinéaste dont on connaît le mieux l'œuvre télévisuelle, parce qu'elle a été très très importante.
Il est Grandeur et Décadence d'un petit commerce de cinéma, et ça est ressorti récemment en salle. Enfin, il est sorti en salle pour la première fois. En fait.
Oui, oui, puisqu'il a été fait pour la télévision. Donc c'est la dernière série de TF1, justement, avant sa privatisation. Je crois que c'est le plus mauvais score d'audience de la chaîne, dans la totalité de son histoire. Et on va montrer un autre épisode de cette série, qui est Cœur de Haran de Paul Vecchiali. Donc voilà, en voyant un certain nombre de ces films, j'ai commencé à me dire qu'il y avait vraiment une partie très méconnue de l'histoire du cinéma qui existait à cet endroit-là. Et aussi, ce qui m'intéressait, c'est que nous, les cinéphiles, ce petit monde de cinéphiles, on a une méfiance très forte envers la télévision. Et c'est un peu le diable. On a toujours considéré que la télévision, c'était le formatage, l'abêtissement, que ça tirait vers le bas, que c'était... Et en découvrant ce qui a pu être fait à la télévision, il y a de telles expériences, de telles expérimentations. En fait, ça a aussi été un espace, même pas de liberté, mais je dirais au-delà de folie totale parfois. Donc il y a qu'à voir le France Tour des Tours des Enfants de Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville, qui est une sorte d'œuvre complètement incroyable. Et les expériences de Carax, il y avait vraiment... Et puis des grands cinéastes, par exemple, vous citiez Georges Franju. Franju, on connaît ses films pour le cinéma, on connaît le Sang des Bêtes, ou on connaît L'Homme sans visage, la télévision, il a fini toute sa carrière à la télévision et il a fait des films absolument magnifiques. On ne les montre pas tous, on en montre un seul. On montre La Ligne d'ombre, qui est une adaptation de Joseph Conrad, mais il a fait aussi son tout dernier film, Le Dernier Mélodrame. En fait, c'est une programmation. On a travaillé pendant 6 mois. On a vu des centaines de films. On a eu du mal à en choisir qu'une petite quarantaine. Mais on pourrait faire 3 mois de programmation avec tous les très beaux films qu'on a vus.
Oh bah chiche, il y aura peut-être des numéros 2 ou 3. Alors, exemple de film pas du tout formaté. Bonjour Benoît Jacquot, merci de nous rejoindre à la descente du train. Ce qu'on entend, c'est un extrait de Shomyo Psalmody Bouddhique, un documentaire que vous avez tourné à la fin des années 70 au Japon pour l'émission La Leçon de Musique. Je crois que c'était la première chaîne, hein, comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Alors, c'est un film, bel exemple d'un film totalement méconnu de vous, Benoît Jacquot, qu'on avait vu quand même à la Cinémathèque française il y a 10 ans. Et je me souviens que ce film était assez important pour vous, pour que vous le mettiez en avant, comme les films qui étaient importants pour vous de venir découvrir de votre part. Vous vous souvenez ce que vous êtes allé faire au Japon à cette époque?
À ce moment-là, je faisais assez fréquemment des documentaires pour la télévision et en effet pour la première chaîne, l'ancêtre de TF1, via l'Institut National de l'Audiovisuel, qui est quand même à l'origine de la plupart des films que vous vous montrez, je crois. Et on m'avait passé commande de 3 films d'1 heure à faire au Japon sur des leçons de musique, des maîtres de musique japonais, à quoi je connaissais absolument rien. Et d'ailleurs, j'avais jamais fichu les pieds au Japon avant. Et du coup, c'était une aventure, ça m'intéressait beaucoup.
Des documentaires, vous en avez fait beaucoup pour la télévision. Vous ouais. avez même commencé, avant même de faire L'Assassin Musicien, votre premier film, votre vrai premier film, ce sont les deux documentaires consacrés à Jacques Lacan. Ouais. Jacques Lacan a rien rétif à vos tentatives de le canaliser. Mais il y a eu des films sur la musique, Alfred Deller, vous avez filmé Merce Cunningham, vous avez fait deux portraits magnifiques de Marguerite Duras, je me souviens. Et tout ça, vous l'avez fait, vous avez continué à le faire en même temps que vous faisiez de votre cinéma dit de fiction. Ouais. Comment est-ce que l'un accompagnait l'autre? Comment ce travail à la télévision pouvait nourrir ce que vous faisiez au cinéma, Benoît Jacquot?
Ça, je suis incapable de dire jusqu'à quel point ça nourrissait ce que je faisais au cinéma. Mais en tout cas, la question quand même pour les cinéastes, c'est souvent qu'est-ce que je peux faire entre deux films? Bon, moi, je me la pose plus trop parce que depuis... une vingtaine d'années, je fais des films de cinéma plus souvent qu'à mon tour, par bonheur pour moi. Mais à l'époque, en effet, la question se posait vraiment. Alors, pour quelques-uns, disons plutôt, ils faisaient de la pub. Moi, je m'occupais le plus souvent en faisant des documentaires pour la télé et quelquefois des fictions. Mais le plus souvent des documentaires. De toute façon, la veine documentaire, l'activité documentaire a pour moi quelque chose de fondamental quant à ma perspective cinématographique. Donc, aller faire des documentaires au sens propre m'intéressait de toute façon.
Alors, qu'est-ce qu'on fait entre deux films? C'est une vraie question et parfois, on fait des films.
Should stop smoking, man. I can't. Because I need my cigarettes. Especially in the evening, you know. Otherwise, I'm sad. Malheureux comme les pierres.
What does malheureux comme les pierres mean?
I feel bad. Enfin, je stresse.
At your age, how old are you? When did you start smoking?
I started when I was 12. But you know, just like that, just buying a packet with my friends, my copains.
Your mates. Copains, mates. Je parle français si vous voulez que nous parlons en français.
Oui, juste acheter un paquet comme ça avec un copain pour fumer. Je pensais pas que je tomberais accro.
Alors c'est un extrait de Brève Traversée, les gens qui aiment votre cinéma, Catherine Breillat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment votre cinéma, l'auront reconnu. C'est un film que vous tournez en 2001 entre Amasseur et Sex is Comedy, et qui est pour la télévision. C'est une commande de Pierre Chevalier, on avait reçu Pierre Chevalier l'an dernier à Plan Large, magnifique producteur de télévision, et qui est dans la collection masculin-féminin, quasiment, on a l'impression qu'elle avait été créée pour vous, Catherine Breillat. Vous avez demandé, voilà, est-ce que ça vous intéresserait de faire un film? Comment est-ce qu'on répond, là encore, à un désir de producteur, en tout cas un producteur qui suscite une envie?
C'est la seule fois où on m'a demandé, non? Avec aussi dans la série à propos de Nice.
Oui,
moi, hélas, je ne suscite pas beaucoup de demandes de producteurs qui me donnent des sujets, alors que ça vous fouette de vous proposer quelque chose. Immédiatement, on a de l'inspiration, alors que si ça se trouve, on était dans son coin en étant incapable d'écrire quoi que ce soit. Alors que le désir, évidemment, le cinéma, c'est du désir. On y répond immédiatement, on a immédiatement de l'inspiration. Donc j'ai écrit « Brève traversée ». Je me suis dit que masculin, féminin, moi je suis à peu près incapable d'écrire des films avec beaucoup de personnages. Moi j'aime les têtes à tête. Donc j'ai décidé que ça serait deux personnes et puis voilà. Et c'est la première fois que je filme la première fois d'un garçon. Le titre c'est les filles. C'est très différent.
Voilà, ça aurait pu s'appeler jeune garçon en référence à jeune fille. Est-ce que quand vous tournez ça, vous vous dites ça va passer à la télévision, donc il faut que je pense ma mise en scène autrement, ou est-ce que vous faites un film de cinéma financé par la télévision?
Moi, je ne pense jamais, je dis toujours que j'ai fait les films pour moi toute seule. C'est déjà tellement difficile de le faire. Que s'il faut penser aux spectateurs que je ne connais pas...
Mais je ne pense pas tant aux spectateurs qu'au format. Le fait que ce soit sur un petit écran, par exemple, n'est pas la même question que quand ça sera diffusé sur un grand écran.
Ça a été diffusé sur grand écran, d'ailleurs. Moi, tous mes téléfilms sortent au cinéma, mais pas en France, mais aux États-Unis et tout ça. Donc je les vois sur grand écran d'ailleurs. Bref, Traversée, c'était sélectionné au Festival de Venise. À la grande surprise de Unifrance Film, qui voulait pas, parce que qui défend le cinéma français, et qui voulait pas financer les voyages de Brève Traversée dans les festivals en disant c'est pas du cinéma. Ben si, c'est du cinéma.
Oui, oui, bah Pierre Chevalier nous avait raconté, déjà Marius et Jeannette avaient posé les mêmes problèmes à l'époque.
Le moyen de diffusion n'est pas l'œuvre. Certes, le cinéma demande un moyen de diffusion, mais que ce soit la télévision, maintenant le portable, c'est du cinéma.
Benoît Jacquot, même question, quand vous réalisez pour la télévision Princesse Marie, par exemple Les Faux Monnayeurs, Gaspard le Bandit, la question du format ne se pose pas ?
Non, elle se pose en tout cas pas pendant que je fais les films, non, ça sûrement pas. Mais je sais de toute façon que je fais à la télévision ce que je ne pourrais pas faire, à mon sens, à mon avis, au cinéma.
Et pourquoi ?
Bon, pas en tout réalisme, parce que je trouverais personne pour faire en sorte que le film existe.
Par exemple, un Princesse Marie n'aurait pas pu être fait pour le cinéma.
Princesse Marie, c'est un...
Il raconte la vie de la Princesse Marie Bonaparte,
Catherine Deneuve. C'est Catherine Deneuve qui voulait absolument faire ça et qui voulait le faire pour la télévision. Bon, il y avait un truc de durée, c'est-à-dire que ça induisait une durée de 3 ou 4 heures et dès lors, au cinéma, c'était impensable, y compris avec Catherine.
Et la télévision, aujourd'hui, est encore un espace possible pour ça. Vous allez participer à une table ronde, hein. La télévision des cinéastes, ça sera lundi à 18h. Il y aura aussi Jean-Claude Brissot, dont pourra voir à Belfort les films qu'on ne va pas pouvoir voir à la Cinémathèque française, probablement. Thierry Garrel, qui a été un grand producteur d'Arte, à votre sens, Catherine Breillat,
on peut
encore faire des choses à la télévision ?
Je crois que c'est beaucoup plus restrictif, parce que si vous voulez, quand j'ai fait Brève Traversée, il est passé à 20h30, il a fait un record d'audience. Curieusement, c'est un de mes rares films qui a fait des audiences énormes, avec une audience captive, paraît-il, alors qu'il y avait une scène gigantesque, et on pouvait zapper sur toutes les autres chaînes, on revenait, c'était la même scène, donc normalement, l'audience s'en va. Je me dis, mais la barbe, qu'est-ce que c'est que ce film où je retombe sur la même scène ? Eh bien, non, il a fait beaucoup d'audience. Ils l'ont repassé à 20h30. Or, j'ai quand même fait deux autres télévisions pour Arte. Ils les ont passées à minuit. Vous voyez le désamour ?
Oui, alors c'est le changement aussi dans les chaînes, y compris sur Arte. D'ailleurs, ce qu'on peut regretter, c'est qu'on n'ose plus passer des films à 20h30 qui pourraient...
Il faut faire des séries. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup regretté de ne pas avoir fait « À but de faiblesse » en série pour Arte, figurez-vous. Ça aurait été, le sujet aurait été, bon, c'est un film, mais le sujet n'est pas très compréhensible, alors qu'en série, c'était beaucoup plus... le sujet était vraiment traité, quoi. Alors qu'il y a un côté Monsieur Verdoux, par exemple. Je me suis inspiré un peu de Monsieur Verdoux dans Un but de faiblesse, pour traiter le passage de l'argent. Et pas réaliste.
Mais il faut la faire produire, cette série, Catherine Breillat, Saïd Ben Saïd. Voilà, on va vous laisser vous débrouiller entre vous. Après, vous aurez tout le Festival de Belfort pour vous convaincre les uns les autres. On verra ce qui sortira de ce festival. Merci.
Ils ne veulent plus faire des films en costume chez Arte, au motif que, soi-disant, c'est trop cher et qu'eux, ils ne donnent pas assez d'argent. Or, moi, j'ai fait que des films en costume, à commencer par Une vraie jeune fille, qui était un film des années 60. Moi, je fais tous les costumes. Bon, Une vieille maîtresse, j'ai fait tous les costumes. Je les avais achetés il y a 100 ans. Enfin, 20 ans avant de le faire. Et je veux dire, c'est pas un problème pour moi. Donc, qu'ils gardent leurs problèmes pour eux. Qu'ils laissent les cinéastes se débrouiller avec le budget. Le cinéaste, et c'est là son rapport avec le producteur, doit accepter qu'il fait son film avec le budget qu'il a. Et le faire en fonction. Et ne pas abîmer le projet et le film pour ça. Et c'est le rapport avec le producteur, je trouve que c'est aussi énormément ça. C'est un rapport de respect. De toute façon, ce qu'il a dit des producteurs, je trouve ça formidable. Ne pas être là sur le plateau, il faut être en amont du film. Et après, le plateau, c'est pas... On y travaille, on a des difficultés. Ces difficultés sont augmentées s'il y a le producteur, parce que les gens vont se plaindre au producteur, alors que le metteur en scène règle très bien tout ça, à condition qu'il n'y ait pas le producteur. Et par contre, évidemment, c'est la main dans la main après, pendant le montage, pendant la sortie, évidemment, voilà. Le producteur, il a exactement défini la fonction.
Ouais, je vois que vous êtes fait pour vous entendre tous les deux. Merci beaucoup Catherine Breillat, merci Benoît Jacquot, merci Saïd Ben Saïd. On va vous laisser parler avec Catherine Breillat. Merci Lily Instinct. Le festival Entrevue démarre aujourd'hui, donc il se poursuit jusqu'au 3 décembre. Ce soir, soirée d'ouverture avec la projection de Tout de suite maintenant de Pascal Bonitzer, une production Saïd Ben Saïd. À 14h48, pardon, pas déjà 18h, sur France Culture dans Plan Large, c'est l'heure de retrouver Michel Simon et ses récentes découvertes qui compléteront utilement le programme Belfortin à l'usage des candidats au baccalauréat et pas seulement. Lobster Film, inlassable dénicheur et restaurateur de films, sort pour les fêtes un coffret Chaplin à l'origine du génie qui comprend deux documentaires signés Eric Lange et Serge Brombert, La naissance de Charlot qui retrace les premiers pas de Chaplin à Hollywood et Sidney, l'autre Chaplin, sur le frère méconnu mais indispensable de Charlie, Sidney Chaplin. Au moment où Charlie Chaplin faisait ses débuts, un autre cinéaste inaugurait une carrière de plus de 130 films, dont plusieurs chefs-d'œuvre comme Le voleur de Bagdad, Les fantastiques années 20, La charge fantastique, La fille du désert, j'en passe, High Sierra ou encore Les Nus et les Morts, Raoul Walsh qui, après avoir assisté Griffiths, se lançait en 1915 dans la réalisation avec déjà un très grand film, Régénération, un des tout premiers, voire le tout premier film de gangster de l'histoire du cinéma, considéré comme perdu pendant près d'un demi-siècle, et lui aussi, puisqu'il a été retrouvé et édité en DVD par Lobster Film. Le film avait été tourné dans le Lower East Side de New York, avec certains membres véritable de la faune interlope des bas-fonds new-yorkais. De ce fait, Michel Simon, le film a presque une valeur documentaire par moment.
Oui, c'est un film stupéfiant. Moi, j'en avais vu des extraits. Il y avait des morceaux qui étaient restés, qu'on avait retrouvés, mais pas l'intégralité. C'est un film tout de même d'une heure vingt qui est tourné entièrement en décor naturel, ce qui est même pas non plus très fréquent. Admiré par Martin Scorsese, parce qu'on pense vraiment à Mean Streets, un de ses premiers films dans la petite Italie. Enfin, on est sur le Lower East Side. On est dans le Lower East Side, avec peuplé de prostituées, d'alcoolos et de toutes sortes de mécréants. Et donc c'est un film absolument étonnant. Il faut dire que Walsh a tourné, comme vous l'avez dit, 138 films en 50 ans. C'est un génie du cinéma américain. Mais on trouve dans ce film des travelling, des moments de fluidité narrative absolument étonnants, qui font penser même à Stroheim. Ça a même la dureté des futurs films de Stroheim, parce qu'à l'époque Stroheim ne tournait pas. On pense à Marlon Brando avec l'acteur principal qui s'appelle Rockcliffe Fellows, qui a la beauté et l'ambiguïté de Marlon Brando, qui est absolument étonnant. Et c'est une copie nitrate qu'on a retrouvée dans un garage de l'Iowa, car Serge Brombert, c'est pas lui qui l'a retrouvée, mais il a un côté glaneur, enfin les fameux glaneurs de Agnès Varda. C'est-à-dire qu'il fouille les greniers, il revient d'Amérique avec des cargaisons de films en vrac qu'il achète, et puis parmi eux, il y a des pépites. Ce film est stupéfiant.
Alors, la même année, je le dis, Chaplin, enfin la même année, les mêmes années, Chaplin fait ses débuts. Et que nous apprennent ces deux documentaires, donc que sortent également Lobster Film, signé Eric Lange et Serge Brombert, Chaplin à l'origine du génie et Sidney, l'autre Chaplin.
Alors, il faut dire qu'avec ces films, il s'agit d'un documentaire sur Chaplin. Avec ces films, il y a des suppléments. Par exemple, j'aurais dû signaler qu'avec Régénération, il y a The Musketeers of Pig Alley, un film de 1912 de Griffiths qui est un moyen-métrage sur le monde des gangsters, donc qui annonce, c'est un couplage extrêmement intéressant. Avec La naissance de Charlot, il y a quatre petits courts-métrages, dont le premier où Charlot devient vraiment lui-même dans Charlot content de soi, c'est Kids Auto Races at Venice, mais aussi il y a un film de la Keystone qui s'appelait Pour gagner sa vie. Alors le film La naissance de Charlot, c'est vraiment sur le thème du double. C'est pas Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais c'est tout de même, il y a vraiment Chaplin et puis il y a Charlot. Et on voit progressivement se former le personnage du vagabond avec le chapeau melon, avec la canne, avec les chaussures qui sont trop grandes, etc. Donc c'est vraiment on voit comment petit à petit Chaplin va devenir Charlot. On raconte évidemment, alors il y a des grands experts qui en parlent, David Robinson qui a écrit un livre de 1000 pages sur sa vie, et puis Kevin Brownlow, le grand historien du cinéma. Donc ce sont des grands experts, et ce qu'ils disent est tout de même passionnant. Et on voit Chaplin, par exemple, à 10 ans, travailler dans un music hall, et l'école de la rue, c'est à la fois l'école de la rue et l'école du public. C'est-à-dire que Chaplin a été à l'école de la rue, c'est-à-dire qu'il a connu la misère, il a connu vraiment... Il dit d'ailleurs, dans un autre film dont on parlera, qui est sur son frère Sidney, qu'il était un clochard, et à 12 ans, il faisait la cloche, il aurait pu rester comme ça tout le temps, mais c'est grâce à son frère aîné qu'il a pu devenir ce grand artiste. Et d'autre part, l'école du public, parce que sur scène, il a fait l'apprentissage des réactions du public. Il savait exactement l'effet des gags sur les gens, et ça va évidemment lui servir pour faire des films aux États-Unis quand il va quitter Londres pour être dans la troupe de Max Sennett.
Alors parlons-en de ce frère, Sidney Chaplin, effectivement complètement méconnu, sauf pour ceux qui s'intéressent à la filmographie de Chaplin, qui cherchent au coin des... Parce qu'on le voit même parfois, je crois, dans certains films de Chaplin. Quel rôle joue-t-il ?
Alors, Sidney Chaplin, c'est d'abord un collaborateur. Il est tout le temps aux côtés de Chaplin. Il s'occupe en particulier de ses contrats. Le contrat, par exemple, de 1 million de dollars qu'ils vont signer en 1916 avec la Mutual, c'est tout même, avec First National, ce qui est tout même extraordinaire. Mais c'est aussi à part entière un metteur en scène et un acteur. Et même les critiques de l'époque le mettaient très haut. Ils disaient que c'était aussi étonnant même que... Mais il a été complètement oublié. Et là encore, c'est accompagné de courts-métrages où on voit effectivement son talent. Et évidemment, il a été victime aussi d'une histoire très actuelle. Il a commis des abus sexuels à Londres en 1928 et il a décidé de prendre la fuite pour ne pas être saisi par la justice. Mais ensuite, en 1931, il fait le tour du monde avec Charlot. Il l'accompagne partout. Charlot, apparemment, avait beaucoup d'estime pour son frère et de confiance dans son frère. Et voilà, donc on voit avec ce qui s'appelle l'autre Chaplin. Alors, il y a le dédoublement de Charlot Chaplin et puis il y a un autre double qui est Sidney Chaplin.
Et puis pour finir, Michel Simon, dans les curiosités dénichées par l'Obster Film, il y a Mireille, d'après l'œuvre de Frédéric Mistral, un film français de 1933, signé René Gaveau et Ernest Servès. Vous recommandez ?
Alors, le film n'est pas exceptionnel. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est accompagné d'un très beau film, L'Arlésienne, de Albert Capellani, qui n'est même pas annoncé sur le coffret. On ne sait pas que ça existe. Albert Capellani, qui est un des plus grands metteurs en scène du muet en France, un court-métrage qui s'appelait L'Arlésienne. Mais le film Mireille est tout de même très intéressant, même si ce n'est pas du tout un grand film. D'abord, il est entièrement tourné en décor naturel, avec des troupeaux de moutons. On pense au tableau de Millet, dont il y a une exposition en ce moment à Lille. C'est tourné en Camargue, avec que des non-professionnels qui chantent, un peu comme dans le film de Bruno Dumont, absolument. Et puis, il y a également Joe Hamann. Joe Hamann, c'est un acteur qui jouait dans des westerns, qui était tourné en Camargue dans les années 20, qui sont un peu oubliés, mais il a écrit des souvenirs. Et Joe Hamann joue dans ce film une sorte de torero. Et donc, il y a un côté totalement film d'aventure. Et la même chose, on a redécouvert ce négatif en 2004. Ce qui est passionnant, c'est que c'est un ancêtre aussi du néoréalisme italien. On disait jusqu'à maintenant, il y a eu Tony de Renoir, il y a eu L'Espoir de Malraux. Mais même en 1933, on voit un film tourné entièrement dans la nature, avec encore une fois des gens qui n'ont jamais joué devant la caméra et qui pousse la chansonnette. Alors voilà, c'est une curiosité, mais tout de même très intéressante.
Tout ça finira mal.
Et alors, les taureaux iront tout seuls à la ferrade ou jacassés comme des pies? Allez, en selle, feignant.
Attention, patron, les bêtes sont dangereuses.
Quoi, qui va risquer ta peau?
Merci Michel Simon. Mireille de René Gaveau et Ernest Servès, les deux documentaires consacrés à Charlie Chaplin et surtout cette immense découverte qu'est Régénération, le premier film de Raoul Walsh. Tout cela est édité en DVD par Lobster Film grâce à Laurent Soy rendu. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son à France Bleu Belfort Montbéliard, Vincent Meyer, et à Paris, Jean Frédérics. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, plan large sur un immense cinéaste américain largement méconnu aujourd'hui après avoir connu la gloire dans les années 40, Preston Sturges, le roi de la comédie, revient dans un coffret DVD Blu-ray exceptionnel de 6 films. Son plus grand chantre, l'historien du cinéma Marc Serizuelo, viendra nous chanter son génie et il sera accompagné d'un de ses plus fervents admirateurs, le cinéaste américain Whit Stillman. Vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présenté par Irène Omelianenko.